Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous.
Nous nous retrouvons avec Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et à tous.
Pour
Bonne année,
j'allais le dire, en ce début d'année 2025, toujours fidèle au poste, Françoise, depuis une dizaine d'années maintenant, une dizaine de saisons. Et vous avez choisi pour cette première émission de 2025 un sujet un peu insolite qui est, alors on a intitulé « Nier, qu'est-ce à dire ?» Pourquoi la négation? Pourquoi s'interroger sur la négation?
Alors, « Nier, c'est-à-dire » Pourquoi ce titre évidemment un peu en suspens. Pour ceci, le thème aujourd'hui n'est pas un thème véritable, parce que nier, je nie, je dis non, c'est un acte de langage en suspens d'autre chose, parce que si je nie quelque chose de quelque chose. Nous allons le voir, c'est la première remarque que l'on peut faire, qui revient à un philosophe très très ancien dont je vais parler, étrange aussi, insolite aussi. Le fait de commencer, non pas par l'affirmation, mais par la négation. Donc, je propose aujourd'hui de prendre en quelque sorte à revers la phrase. Les phrases sont généralement affirmatives. J'essaie de voir ce qui s'implique philosophiquement dans la phrase négative et de manière plus ample dans la négativité. Parce que je vais parler d'une part de la négation, de l'acte de nier, comme précisément un acte de langage. Il est bien entendu qu'il y a aussi des gestes qui permettent d'être interprétés comme relevant de la négation. Je ne suis pas d'accord, je peux le manifester par une gestualité. Je vais mettre la question de la gestualité entre parenthèses. Ça, c'est un premier point. Et puis, nier... dire non, cela peut apparaître, par exemple, dans les scènes très traditionnelles de la vie quotidienne. On fait une proposition, je dis non. Cela peut aussi apparaître, et c'est cela qui va m'intéresser essentiellement dans la première partie, dans des scènes. Et une scène très spécifique, étudiée par Freud, qui est la scène psychanalytique, dans laquelle celui qui... parle, au titre de son psychisme profond, celui qu'on appelle maintenant l'analysant, eh bien, l'analysant peut dire une chose et immédiatement corriger son dire en disant non, je ne voulais pas dire ça.
Le déni. Alors,
nous verrons comment Freud, à partir de cette expérience, peut poser, je dirais presque philosophiquement, métaphysiquement, mais d'abord psychiquement, la question de la négation. Donc, et dans un dernier temps,
pardon.
Mais ce ne sera peut-être pas pour cette séance, certainement pas pour cette séance, je renverrai à tout à fait autre chose, non plus la négation comme acte de langage, mais la négation comme en quelque sorte un mouvement de décadence civilisationnelle qui produit une espèce de négation de tout ce qui est. Et c'est ce qu'on appelle le nihilisme. Et je fais référence à Nietzsche. Mais au tout début, on va poser les principes. Alors, poser les principes, cela veut dire lire Aristote.
Bien évidemment. Donc, trois grands philosophes.
Trois points.
Aristote, Freud, Nietzsche. On verra dans cette première émission, donc je pense à Aristote et Freud. Alors, quelles sont les grandes définitions d'Aristote?
Alors, premièrement, Aristote s'est attaché à construire une logique, c'est-à-dire des méthodes de raisonnement qui soient d'une extrême rigueur et qui permettent de construire la vérité, de construire et de produire la vérité. Donc, ce à quoi il s'attache d'abord, dans un petit opuscule, enfin dans un opuscule, pardon, qui s'appelle « Traité de la proposition », ce à quoi il s'attache, c'est justement à définir la phrase, et il commence par dire que la phrase, de manière primordiale et affirmative. Bon, nous ne pouvons pas en disconvenir. Lorsque nous parlons sur le mode d'une phrase affirmative. Et la contradiction, ou la contradiction à la phrase affirmative, ne vient qu'en second, comme quelque chose d'irruptif, parfois même un peu scandaleux. Hein, vous savez bien que quand on dit non à quelqu'un, il y a tout de même une espèce de violence qui est faite par rapport à la proposition originelle. Voilà. Et c'est à partir de cette expérience-là, une expérience donc du discours déclaratif, hein, l'expression discours déclaratif est une traduction d'Aristote, logos apophantikos, à partir du discours de proposition, l'affirmation fondamentale, primordiale, peut s'infléchir en son contraire. Et c'est évidemment la négation, l'acte de nier, qui pose le problème philosophique le plus lourd. Bon, on peut toujours affirmer ce qui est. Il est plus délicat d'affirmer ce qui n'est pas. Alors, je vais commencer par des définitions, mais tout à fait simples, qui sont donc tirées de d'un chapitre de ce traité de la proposition. Alors, voici. Hein. Tout commence par le discours déclaratif, c'est-à-dire par une énonciation de parole douée de sens, qui, bien sûr, donne lieu à une phrase, et il s'agira ici d'abord d'une phrase simple. Que nous dit Aristote ? Je cite. La première espèce de discours déclaratif est l'énonciation, qui affirme. Alors, nous voyons bien une énonciation, c'est-à-dire véritablement un acte de langage, une parole dont nous verrons que ce doit être une parole logique, qui en quelque sorte se profère en vérité, alors, ou bien devant un auditoire, mais par rapport à soi-même, c'est-à-dire par rapport à un mouvement d'une étude. Bon, je reprends ma citation. La première espèce de discours déclaratif, c'est l'affirmation. La suivante, la négation. Donc, nous voyons bien comment l'affirmation, si j'ose dire, s'affirme en premier et en quel sens la négation apparaît sur une modalité secondaire. Précisons, un peu plus tard, l'énonciation simple. Il s'agit encore une fois d'une phrase, par exemple, le cheval est blanc. C'est l'exemple qui est donné souvent par Aristote dans toute sa construction d'une logique, d'une logique sans faille. L'énonciation simple est l'énonciation, alors toujours l'idée d'actualité de la parole, qui affirme que telle chose est ou n'est pas. Hein? Donc il s'agit d'abord, essentiellement, de définir ou l'existence ou la qualité essentielle d'une chose, puisque les deux possibilités existent. Toujours sous couvert du verbe « être », ou alors d'un verbe qui plus délicat dans la langue grecque, « hyparkein », qui désigne à la fois ce qui existe et ce qui appartient. Hein? Donc, je reprends, l'énonciation simple est l'énonciation qui affirme que telle chose est ou n'est pas, selon les diverses divisions du temps. C'est-à-dire que cette logique d'affirmation et de négation, elle suppose aussi une certaine souplesse qui est celle de la temporalité. C'est-à-dire que je peux affirmer d'un côté un certain moment et affirmer ce que je viens de dire à un autre. Si j'ai le temps, je lirai ce passage. Un peu plus loin. L'affirmation et l'énonciation, toujours, hein, qui attribue une chose à une autre. C'est-à-dire l'existence ou une qualité. Le cheval existe, le cheval est blanc. C'est moi qui donne ces exemples. La négation est l'énonciation qui sépare une chose d'une autre chose. Alors tout se passe comme si la négation était une sorte de coin, céolienne, mis entre, à l'intérieur de la phrase. À l'intérieur du discours continu qui commençait par une affirmation. Mais vous voyez le statut apparemment secondaire de la négation. Alors voilà le plus compliqué, qui montre comment il y a une dissociation possible entre affirmer, nier et les capacités du langage. C'est un peu compliqué, je vais vous expliquer. Il est possible d'énoncer ce qui est comme n'étant pas. Je peux dire une chose alors que la chose n'est pas, ou la chose n'appartient pas. Alors n'appartient pas, toujours le même verbe, je dirais au monde qui nous environne. Il est possible d'énoncer ce qui est comme n'étant pas, ce qui est, ce qui n'est pas comme étant, ce qui est comme étant, c'est la plupart des cas, hein, et ce qui n'est pas comme n'étant pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en expliquais tout à fait au début. Ça veut dire que la parole humaine, le logos, c'est tout de même délié d'un contact pur et simple avec la réalité de l'existence de la chose. Que cette chose soit une substance, comme on dirait un cheval, ou que cette chose soit une qualité, par exemple, blanc. C'est tout à fait intéressant, je trouve, que le langage ait cette marge qui permet le jeu de la vérité et de l'erreur. Parce qu'on ne peut pas parler de logique, de phrase, d'affirmation, de négation, sans référence, sans la référence ultime de toute la pensée philosophique à la vérité. Vient ensuite, donc, l'idée sur laquelle, suivant l'évolution du temps, eh bien, je peux être amené à infirmer ce que j'ai dit, ou à ne pas confirmer ce que j'ai dit, et l'inverse étant vrai. Ça, c'est intéressant aussi, c'est de faire introduire une notion de temporalité. La logique n'est pas une logique fixiste. Elle se déploie comme le logos. La parole se déploie dans le temps et les circonstances peuvent changer. Ce qui explique des dénominations et des évaluations de vérité différentes. Encore un mot, et ça c'est tout à fait important aussi, Aristote introduit la question de la contradiction. Alors, en effet, une phrase peut être contredite par une autre. Et ce qui est important, c'est ceci, il y a contradiction lorsque je juxtapose une phrase affirmative et une phrase négative. Je ne peux pas dire à la fois, le cheval est blanc, le cheval n'est pas blanc. Je ne peux pas lier ces deux choses. Donc, une des grandes règles de la logique, alors la première règle, c'est évidemment la règle d'identité. Quand je dis qu'une chose est une chose, A, c'est A. Mais le deuxième principe, c'est le principe justement de contradiction. On l'appelle comme ça, mais c'est le principe finalement de non-contradiction. Et nous savons bien que la contradiction, c'est ce qui invalide, par exemple, la qualité de vérité d'un énoncé, d'une énonciation. Et pourtant, est-ce qu'il n'y a pas dans notre expérience, non pas dans la logique, mais dans notre expérience, cette projection parfois de cette parole double où les deux éléments sont antithétiques. C'est par exemple ce qu'on appelle en psychanalyse l'ambivalence. Je peux à la fois dire une chose et son contraire, ou plutôt je peux psychiquement figurer une chose par la parole ou non, et son contraire. Donc ce principe de contradiction, ou plutôt de non-contradiction, ce serait plus juste, il peut être aussi sujet à trouble. Il peut y avoir du trouble dans le refus logique de la contradiction. Le troisième principe le plus délicat, peut-être le plus intéressant, c'est le principe du tiers exclu. C'est-à-dire c'est ou bien. Ou bien ceci est vrai, ou bien ceci n'est pas vrai. Il n'y a pas de médium, il n'y a pas de stade intermédiaire. Remarque, ce principe du tiers exclu n'est pas toujours envisagé par les logiciens modernes et il ne l'est pas, par exemple, dans les logiques étranges, très perturbantes pour nous, qui sont celles des grands textes du bouddhisme, dans celui de Nagarjuna. Je ne peux pas, c'est compliqué. Mettre cela en analyse précise. Alors maintenant, encore un mot. La remarque que je voudrais faire, c'est que ces phrases, apparemment extraordinairement simples, d'Aristote, font d'une logique, mais une logique formelle. Il s'agit d'une logique formelle, c'est-à-dire on ne traite pas, c'est pour ça que je disais que nier, ça ne donne pas lieu à un thème. Affirmer non plus. Mais cette logique est une logique formelle, dans laquelle n'intervient pas l'affect, par exemple. Hein.
Oui, Aristote, pas d'émotion.
Non. Aristote construit ce qu'on appelle la logique, c'est-à-dire des systèmes ou des méthodes de raisonnement absolument rigoureux, dont la vocation est évidemment de conduire à la vérité. Alors, tout ce qui est l'effet affectif, je dirais, hein, la pulsion émotionnelle que nous pouvons mettre dans le langage quand nous disons oui, quand nous disons non, ici,
on n'en a pas question.
Il n'en est pas question. Mmh. Et pourtant, Aristote a traité de cela dans la poétique et dans la rhétorique. Il n'est pas du tout ignorant de ces choses, tout à fait au contraire. Mais il isole, et c'est ça qui fait pour nous, l'extraordinaire primauté d'Aristote en matière de logique. Il est le premier à définir les principes de la logique. Pour nous, pour toute la tradition occidentale.
Alors, avant de passer à Freud, qui est tout à fait dans un autre registre, hein, là, Aristote, pas d'émotion, pas d'affect. Freud, beaucoup d'affect, beaucoup d'émotion.
Surtout l'affect. Mais pas seulement.
Pas seulement. Vous avez choisi une musique que je ne connaissais pas de Liszt, qui est Méphistovals, parce que Méphistophélès, c'est tout de même... Pourquoi avoir choisi
Alors, justement, j'ai pensé à Méphisto grâce à la très célèbre phrase de Goethe, « Je suis l'esprit qui toujours nie. Ich bin der Geist, der stets verneint. » Alors, je le dis en allemand, mais vous allez voir que toute la suite, après le grec, on aura le droit à l'allemand, pardon.
Donc, une musique absolument magnifique que vous m'avez fait découvrir et nous sommes heureux de partager. Donc, Liszt, Méphistovals. Sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Françoise Gernot dans cette émission que nous avons intitulée « Nier, qu'est-ce à dire ?» Et après Aristote, c'est Freud. Vous attaquez à Freud.
Oui, alors j'ai choisi, vraiment ça suppose beaucoup de, à la fois d'énergie et de... Bon, il faut oser. J'ai choisi donc un court texte de Freud, très célèbre. Il s'appelle « La négation ». Il a été rédigé en 1925 par Freud. Négation, c'est un titre possible. Il y en a un autre, c'est la dénégation. Hein. Mmh. En allemand, on ne distingue pas die Verneinung entre nier et dénier. Et nous allons le voir qu'il s'agit d'abord de la dénégation dans une scène qui est la scène psychanalytique, et ensuite de la négation, justement, au sens où l'entend Aristote. Négation qui consiste bien sûr à nier l'existence ou la qualité essentielle d'une chose, comme nous venons de le voir. Mmh. Nous sommes du côté non plus de l'affirmation, mais de la négation, comme si la négation en tant qu'acte de parole est beaucoup plus riche du point de vue psychique que l'affirmation. Alors, je vous raconte la scène. Nous sommes donc, je dirais, devant le divan du psychanalyste. Et voici ce que Freud en dit quant à son expérience. Parce que cette étude part, comme toujours chez Freud, d'une expérience clinique. Je lis « La façon dont nos patients présentent au cours du travail analytique leurs idées incidentes nous donne l'occasion de quelques observations intéressantes. » Alors, les patients parlent, ils travaillent, puisque vous savez que la psychanalyse est un travail, une sorte de perlaboration de la parole, et nous sommes toujours ici dans le registre de la négation comme acte de la parole, ce qui ne sera pas le cas tout à l'heure, à la fin du texte. Hein. Au cours du travail analytique, nos patients, donc, font surgir des idées. Alors, idées incidentes, ça veut dire... Au cours de la parole de l'analysant, comme on l'appelle maintenant, ce produit surgit souvent par un surgissement inopiné, inattendu, une idée. Alors non pas une idée au sens d'une représentation philosophique, mais une idée au sens d'une sorte d'impulsion douée de représentation. Je continue. Alors voici l'exemple. Donc de ce que dit l'analysant à Freud, par exemple. Vous allez maintenant penser que je vais dire quelque chose d'offensant. Mais je n'ai pas effectivement cette intention. Donc, ici, l'analysant proteste la qualité, alors négative hein, aussi, la qualité violente de ce qu'il va prononcer ou de ce qu'il prononce. Autre cas, autre exemple, ou bien, je préfère celui-là, vous demandez qui peut être cette personne dans le rêve. Je pense que là, nous sommes dans la position de l'analyste. Hein. Vous demandez qui peut être cette personne dans le rêve. Vous venez rêver quelqu'un, qui est-ce? Ma mère? Ce n'est pas elle. Mmh. Alors voilà. Donc,
dénégation.
L'analysant, alors non seulement il nie, mais en bon français, il dénie. Ça, surtout pas. Alors, vous savez bien que la dénégation, c'est aussi une figure de rhétorique. Mmh. Ce n'est pas moi qui vais vous dire que. Mmh. Hein. C'est un usage, la négation, qui est assez intéressant. Parce que justement, quand je dis « ce n'est pas moi qui vais vous dire que », j'insiste pour dire que c'est moi.
C'est moi. Hein? Mmh.
Donc, l'ambiguïté ou l'ambivalence entre affirmation et négation, nous la voyons ici apparaître à l'état pur dans la scène psychanalytique, mais nous la pratiquons dans un langage courant. Réaction, nous rectifions, donc c'est sa mère. Surtout pas ma mère.
C'est votre mère. Donc, en fait, c'est tout ce qui est refoulé.
Oui, Sylviane, précisément, vous venez de le dire, je ne sais pas si les auditeurs l'ont entendu.
Tout ce qui est refoulé.
C'est la question du refoulement qui, elle aussi, expliquerait, et nous allons le voir, cette étrange projection sous la forme négative. Nous prenons, je continue, la liberté lors de l'interprétation de faire abstraction de la négation. C'est-à-dire l'analyste va nier la négation pour ne retenir que la position affirmative. Je reprends, nous rectifions, donc c'est sa mère, nous prenons pour nous la liberté lors de l'interprétation de faire abstraction de la négation, d'extraire le pur contenu de l'idée venue à propos de cette personne. Mais ce que dit l'analysant, je n'ai aucun plaisir à donner crédit à cette idée incidente. Je vais résumer la suite. Que se passe-t-il? Eh bien, lorsque cette parole devient véritablement, grâce à la présence du psychanalyste, une sorte de révélation du psychisme de celui qui parle, eh bien, il se passe quelque chose d'assez étrange, parce que l'analysant, lui, comprend très bien intellectuellement. Oui. Il comprend très bien intellectuellement la traduction, l'interprétation du psychanalyste. Mais, comme dit, il n'y croit pas.
Il n'y admet.
Il n'y adhère pas psychiquement. Alors, ce que dit Freud, c'est qu'il s'agit du refoulement, en effet. Il s'agit du refoulement, mais le refoulement à la fois se libère sous la forme d'une représentation intellectuelle, mais en même temps. Mais en même temps, il ne se libère pas, il insiste en ce sens où l'affect est toujours là et d'une certaine manière n'est pas reconnu.
Donc on est loin là avec votre étude de Freud des principes d'Aristote, hein, l'un où il n'y a aucun affect et l'autre où l'affect est omniprésent.
Oui, alors ce qui m'intéressait, c'est de mettre en parallèle deux textes qui apparemment sont très étrangers l'un à l'autre, mais vous allez le voir que lorsque Freud, à partir de cette expérience de la dénégation, de la négation comme dénégation, essaie de découvrir, et c'est en cela qu'il est philosophe, parce que tout de même il est philosophe, quels sont les fondements de la logique formelle, eh bien les définitions qu'il donne sont celles d'Aristote. J'ajoute ceci, la phrase même de Freud. Un contenu de représentation ou de pensée, refoulé, peut donc se frayer la voie jusqu'à la conscience à la condition de se faire nier. La négation est une manière de prendre connaissance du refoulé de fait, et c'est déjà, en ce sens, une suppression du refoulement, mais certes pas une acceptation du refoulé. On voit comment la fonction intellectuelle se sépare ici du processus affectif. C'est intéressant qu'il puisse y avoir dissociation entre les deux. À l'aide de la négation, c'est seulement l'une des conséquences du processus du refoulement qui est abolie, celle qui consiste en ce que son contenu représentatif ne parvienne pas à la conscience.
Donc, Aristote et Freud en parallèle. Et puis, dans la seconde émission, vous continuerez sur Freud et on ajoutera Nietzsche. Hein. Là, c'est encore une autre... on parlera du nihilisme. Merci à vous, Françoise, et rendez-vous pour la deuxième émission, La négation, qu'est-ce à dire ? Merci beaucoup.